Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure du journal de la rédaction. Bonjour Jacqueline Fardel.
Bonjour à tous. Les sénateurs argentins vont-ils dire oui ou non à la légalisation de l'avortement? Vote aujourd'hui dans le pays. Le résultat incertain dans ce pays catholique et conservateur, terre du pape François, qui a multiplié les déclarations contre l'avortement. Correspondance à Rome d'Antonino Gallofaro. Le pouvoir vénézuélien lance une offensive contre l'opposition. Après l'attentat dont le président dit avoir été victime ce week-end à Caracas, Nicolas Maduro annonce une prochaine traduction en justice des députés accusés d'un décryptage avec Nadine Epstein. Un directeur de la recherche scientifique tué en Israël. Le Mossad, service secret israélien, serait derrière cet assassinat. Israël élude la question. Les explications de Mathieu Laurent. En France, à Calais, des violences policières, physiques, verbales, des entraves aux distributions de nourriture aux migrants. C'est ce que dénoncent les acteurs de l'aide humanitaire. Ils ont remis un rapport aux défenseurs des droits. La croissance du PIB français pourrait s'accélérer au troisième trimestre, plus 0,4% selon la Banque de France. Un rebond pas forcément suffisant pour régler l'équation budgétaire, nous dira Élie Habergel. La disparition du comédien Étienne Chicot à 69 ans, un nom peu connu mais un visage familier. L'acteur français a multiplié les seconds rôles dans 120 films, au cinéma, à la télé. Une carrière de 45 ans retracée par Camille Manière en fin de journal. Bonjour Romain de Bec-de-Lièvre.
Bonjour.
On vous retrouve pour La Grande Table dans un quart d'heure. Quel est le menu?
En première partie, on revient sur l'œuvre du cinéaste japonais Yasujirō Ozu et en seconde partie, le portrait du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan.
Rendez-vous à 12h45. L'Argentine va-t-elle légaliser l'avortement? Le pays retient son souffle alors que les sénateurs votent sur le projet de loi aujourd'hui. Le texte a été adopté le 14 juin par la Chambre des députés. Pas sûr qu'il soit suivi par les sénateurs. Le vote est incertain. Aujourd'hui, l'accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, reste très limité en Argentine. Une femme peut se faire avorter uniquement en cas de viol ou quand sa vie est en danger. Et sinon, elle risque jusqu'à 4 ans de prison. Le nouveau projet veut légaliser l'avortement lors des 14 première semaine de grossesse. L'IVG demeure une question difficile en Argentine et divise une société fortement influencée par l'Église catholique. Le pape François, qui est né en Argentine et qui généralement n'interfère pas dans les décisions politiques de son pays, a cette fois lancé une campagne féroce contre le projet de loi à Rome, Antonino Gallofaro.
L'avortement comparé par le pape François à une pratique nazie. Ce commentaire en juin dernier avait choqué. Le pontife s'exprimait lors d'un forum dédié aux familles. Il évoquait alors les avortements sélectifs ou thérapeutiques, les avortements lorsqu'un handicap lourd est décelé chez un fœtus. Au siècle dernier, tout le monde était scandalisé par ce que faisaient les nazis pour veiller à la pureté de la race, lançait le pape. Aujourd'hui, nous faisons la même chose en gants blancs. Sur l'avortement en général, la position de François est la même, contraire. Dans la même logique que son opposition totale à la peine de mort, par exemple, le pape défend toute vie humaine, de sa conception à sa mort naturelle. Il s'exprime plus volontiers sur des questions sociales comme l'immigration, qu'éthique, car pour lui, la position de l'Église sur ces dernières ne peut pas bouger et est déjà bien assez claire. Dès le début de son pontificat en 2013, le pontife argentin l'avait écrit noir sur blanc dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. L'avortement n'est pas sujet à de prétendues réformes ou à des modernisations. Pour le pape, alors comme aujourd'hui, ce n'est pas un progrès de prétendre résoudre les problèmes en éliminant une vie humaine.
Et le résultat du vote des sénateurs argentins ne devrait pas être connu avant ce soir ou dans la nuit. Au Venezuela, Nicolas Maduro s'en prend à l'opposition après l'attaque au drone qui a visé le président vénézuélien ce week-end à Caracas. Le pouvoir veut traduire en justice plusieurs opposants. Nicolas Maduro les accuse d'être impliqués dans ce qu'il qualifie d'attentat, de tentative d'assassinat. Il vise notamment l'ancien président du Parlement, l'opposant Julio Borges, actuellement en exil en Colombie, qui lui répond sur le réseau social Twitter. Ni le pays ni le monde ne croient à ta farce d'attentat. L'Assemblée constituante doit discuter aujourd'hui de la suppression de l'immunité parlementaire des personnes concernées. Nadine Epstein, un premier pas vers une traduction en justice.
Cette histoire de drone, c'est un coup monté par Nicolas Maduro lui-même. C'est ce que pense une partie de la population vénézuélienne, en premier lieu les anti-régimes. Comme vous l'avez dit, l'ex-président du Parlement, Julio Borges, qui après avoir été mis en cause par le président vénézuélien, a répondu « Ni le pays ni le monde ne croient croit à farce de l'attentat. Nous savons tous que c'est un montage pour nous poursuivre et pour nous condamner, nous qui nous opposons à ta dictature. » Fin de citation. Un autre député de l'opposition a lui été inquiété par la police et la répression va se durcir encore avec cette loi qui supprime l'immunité parlementaire et ouvre donc la voie à la traduction en justice des députés. Une excuse tout trouvée pour Nicolas Maduro pour museler encore un peu plus les voix de ses adversaires et régner en maître absolu au Venezuela au moment où les pays voisins se montrent de plus en plus favorables aux opposants qui fuient. Le Brésil vient de rouvrir sa frontière, près de 500 Vénézuéliens la franchissent quotidiennement et la Colombie a de nouveau qualifié le Venezuela de dictature dans la région. Seuls le Nicaragua et Cuba ont apporté leur soutien à Caracas. Mais, selon l'agence Reuters, un ancien chef d'une force de la police municipale vénézuélienne, passé dans l'opposition, a déclaré avoir orchestré cette opération contre le président, opération menée par des militants anti-Maduro, regroupés en association de résistance, qui, assure l'ex-chef de police de San Diego, poursuivra la lutte armée.
Nadine Epstein, merci. Au Zimbabwe, le responsable de l'opposition arrêté ce matin, Tendai Biti, l'ancien ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale, a été arrêté à la frontière avec la Zambie. Son parti conteste les résultats de l'élection présidentielle. Il était recherché par la justice, accusé dans le pays d'incitation à la violence. En République démocratique du Congo, les regards tournés vers le président congolais, Joseph Kabila. Il doit dire dans les toutes prochaines heures s'il se présente ou non à l'élection présidentielle de la fin de l'année, le 23 décembre. Joseph Kabila, dont le deuxième mandat a expiré fin 2016. La Constitution lui interdit en principe de se représenter. En Israël, les soupçons se tournent vers le Mossad après l'assassinat d'un scientifique, Aziz Asper, tué vendredi en Syrie. Il était directeur de la recherche scientifique et selon un haut responsable des services de renseignement au Moyen-Orient, les services secrets israéliens seraient à l'origine de cet assassinat. Et ce n'est pas le premier scientifique ou ingénieur visé par Israël. Bonjour Mathieu Laurent.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Les autorités israéliennes qui ne réagissent pas ou alors de façon équivoque.
Tout en se félicitant, moyennant quelques précautions oratoires, je cite « qu'il ne soit plus parmi nous ». Ce sont les termes du ministre israélien du renseignement. Son élimination fait d'ailleurs l'objet de nombreux développements dans la presse israélienne qui prend soin de contourner la censure militaire. Pas un mot du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le seul à pouvoir ordonner une telle opération. L'opération, une charge aurait explosé au passage de son véhicule, rappelle celle qui ont coûté la vie à 6 scientifiques en charge du programme nucléaire iranien, revendiqué cette fois par l'État hébreu. Aziz Asbar est mort samedi à Maziaf. Maziaf qui héberge le centre d'études et de recherche scientifique. Selon le New York Times, il dirigeait une unité baptisée Secteur 4 et chargée, en liaison avec les autorités iraniennes, de reconstruire un atelier souterrain de fabrication de missiles de longue portée en partant d'armes de faible technologie. Des installations bombardées dans des raids attribués à l'aviation israélienne, le dernier en date, le 22 juillet. Aziz Asbar a d'ailleurs été identifié dès 2011, à la faveur d'une opération du nom de Ratafia, menée par le Mossad et le contre-espionnage français, appliquée à recueillir un maximum d'informations sur ce fameux centre d'études de Maziaf, comme en attestent des notes confidentielles françaises déclassifiées en 2013, notes portant sur l'arsenal chimique du régime de Bachar el-Assad. Aziz Asbar, scientifique de haut rang, avait accès au palais présidentiel à Damas, était en contact avec le commandant iranien Qassem Soleimani, à la tête des troupes d'élite Al-Quds, et Aziz Asbar était enfin en relation avec des cadres du Hezbollah. Les médias gouvernementaux syriens accusent frontalement Israël. Certains opposants veulent y voir une liquidation en interne quand la brigade islamiste Abu Amara revendique l'assassinat d'Aziz Asbar, pilier de l'arsenal chimique et militaire syrien.
Les précisions de Mathieu Laurent, merci. De l'intimidation, du harcèlement. 4 associations d'aide aux migrants dénoncent des violences policières sur les bénévoles à Calais, dans le nord de la France. Elles viennent de remettre un rapport aux défenseurs des droits. Plus de 660 incidents relevés entre le 1er novembre et le 1er juillet dernier. Les associations citent des contrôles d'identité abusifs, des arrestations, des fouilles et même des violences physiques. Des bénévoles empêchés aussi de travailler. Certaines distributions de nourriture aux migrants n'ont pas pu se faire. Éléonore Vigny est membre de l'association L'Auberge des migrants. Elle a rédigé ce rapport.
Quand les forces de l'ordre sont présentes et contrôlent les bénévoles ou fouillent des véhicules ou mettent des contraventions bénévoles, fatalement, en fait, les exilés qui sont sur leur lieu de vie ne vont pas venir à la distribution du fait de la proximité des forces de l'ordre. Donc déjà, ça va avoir un impact direct sur notre capacité à distribuer, que ce soit de l'eau, de la nourriture, des vêtements. Et ça a ensuite un second impact qui est tout simplement celui de l'intimidation récurrente et quotidienne des bénévoles. Donc ça nous fait perdre du temps. Un contrôle d'identité, c'est quand même plusieurs minutes. Une fouille de véhicule, ça peut être long. Donc ça va nous entraver aussi à ce niveau-là. Et puis ensuite, il y a quand même des éléments qu'on rapporte dans le rapport qui sont particulièrement graves et particulièrement choquants. Et les bénévoles qui les ont vécus, ça a quand même eu un impact sur leur santé psychologique et personnelle qui est assez important et qu'on ne peut pas négliger non plus. Il y a deux événements qui me viennent en tête. Le premier, c'est une bénévole de sexe féminin qui a été palpée par un officier de sexe masculin. Et en fait, ce qu'elle décrit lors de sa palpation, c'est tout simplement un attouchement. Le second, c'est une bénévole qui raconte que pendant qu'elle filmait une opération d'expulsion, deux CRS se sont approchés d'elle et l'un d'eux l'a saisi par la gorge et l'a jeté à terre de manière extrêmement violente aussi. Ça, c'est vraiment deux témoignages qui, moi, personnellement, m'ont bouleversée.
Léonore Vigny, jointe par Guillaume Fariol. De son côté, la préfecture du Pas-de-Calais et la mairie assurent que ces accusations sont sans fondement. Des prévisions plus optimistes pour la croissance française. Selon l'estimation de la Banque de France ce matin, elle devrait s'accélérer de 0,4% au cours de l'été. Un rythme supérieur à celui enregistré pendant les 6 premiers mois de l'année. On était à plus 0,2%. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Une croissance de bon augure donc pour le gouvernement, mais la tâche ne sera pas facile pour autant.
Alors oui, la France est sortie du trou d'air économique temporaire porté par des carnets de commandes bien remplis. Les récents mois moroses économiquement avaient conduit le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, à baisser la semaine dernière la prévision de croissance du gouvernement. 2% était d'abord envisagé pour cette année, mais face à une activité faiblarde, Gérald Darmanin a annoncé une croissance qui ne sera pas inférieure à 1,8%. Cela dit, même revu à la baisse, cet objectif n'est pas forcément réalisable. Pour les spécialistes, un rebond spectaculaire de la croissance est nécessaire au troisième et au quatrième trimestre. Un rebond bien plus important que ce que prévoit la Banque de France. Par ailleurs, l'INSEE précise que si l'activité économique reste à son niveau actuel d'ici la fin de l'année, le taux de croissance sera de 1,3%. L'Institut de statistique anticipe néanmoins une croissance à 1,7% pour l'année, mais cela reste donc en deçà de ce que le gouvernement prévoit. Et puis là encore, Donald Trump pourrait venir jouer les troubles faits, car la guerre commerciale déclenchée tous azimuts par le président américain risque d'entraver la bonne marche de l'économie mondiale.
Une nouvelle grève prévue chez Ryanair vendredi et les pilotes allemands qui rejoignent le mouvement européen. Des mobilisations sont déjà prévues en Irlande, en Suède, en Belgique pour demander de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Aucun accord n'a été conclu jusqu'à présent. La compagnie aérienne irlandaise à bas coût avait évité des grèves généralisées en décembre dernier en reconnaissant pour la première fois les syndicats. Un visage familier du cinéma, une voix aussi, un nom pourtant peu connu. Étienne Chicot est mort à 69 ans. L'acteur français qui a eu une carrière prolifique en tant que second rôle au cinéma, à la télé. Il a aussi joué au théâtre. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Une carrière qu'il avait commencée au tournant des années 70.
Et une carrière qui aura vu Étienne Chicot imprimer sa patte, sa présence pourtant discrète sur une centaine de films. Première apparition signifiante sur grand écran, c'était en 1976. Le plein de super du réalisateur Alain Cavalier, road movie irrévérencieux et fauché avec Patrick Bouchité.
Donc tu sais ce que ça coûte, un petit café, un petit jus de fruits et des tartines avec de la marmelade partout.
14 francs, c'est pas cher.
Eh bien, moi, j'ai pas 14 balles. Il me reste 23 francs, tout et pour tout.
C'est tout?
Oui, pour descendre dans le midi et remonter avec mon pote Daniel.
C'est une blague.
Le plein de super, c'était un film dont Étienne Chicot avait signé la musique originale, car notre homme chantait également. Et en la matière, c'est bien dans Starmania, deuxième distribution en 1979, qu'il prend toute sa dimension musicale. Il y reprend en l'occurrence le rôle de Zéro Janvier, l'affreux milliardaire qui deviendra président de l'Occident.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro.
Un artiste pour sûr, une voix et un visage en tout cas qui, à force d'écumer les rôles dans les premières séries télévisées à succès des années 80 et 90, l'ont imposé comme une présence familière dans la société française. Étienne Chicot a brillé au théâtre, ça lui a valu un Molière du meilleur second rôle en 1989 pour L'absence, la pièce de Lolé Bellon. Mais à la fin des années 90, il revient au cinéma, la plupart du temps dans le registre du bourru, tendre et gentiment largué dans des dizaines de comédies. Il sera aussi un archétype de flic français dans la super-production américaine Da Vinci Code en 2006.
Bonjour professeur. I'm Lieutenant Collet from the CPJ, a kind of French FBI.
Étienne Chicot aura toujours considéré sa carrière comme un parcours initiatique, un apprentissage au contact des plus grands interprètes. Ce matin, à l'annonce de sa mort, la jeune génération de la comédie lui rendait à son tour hommage, lui dont le talent aura été mis en valeur ces dernières années par des humoristes devenus réalisateurs comme Jamel Debbouze, Danny Boone ou encore Ramzi Bedia.
Merci Camille Magnard. Vers la fin de la canicule en France, encore 9 départements en alerte orange dans les Alpes, mais en France, les températures baissent d'une dizaine de degrés par endroit. Les fortes chaleurs qui, depuis le début du mois, ont entraîné une légère hausse de la fréquentation des services d'urgence en France. Mais le bilan est à ce jour plutôt rassurant, assure la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui dit rester vigilante sur l'impact sur les personnes âgées, qui peut être un peu décalé dans le temps. Aujourd'hui, les températures sont comprises entre 24 et 30 degrés en France, jusqu'à 33 encore sur la Provence et la Corse. Le ciel globalement chargé, la pluie revient par le sud-ouest en cours de soirée jusqu'au Limousin. Ce journal a été préparé avec Mathilde Laurent. Merci. Le prochain journal avec Sébastien Mériot à 18h.